Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci à tous de votre fidélité. Comme tous les jours, RFI vous propose de commenter l'actualité. Et ce matin, nous allons revenir une fois de plus sur le Burkina Faso, mais nous allons surtout nous intéresser à l'héritage de Thomas Sankara. La chute de Blaise Compaoré constitue une réhabilitation de la mémoire de Thomas Sankara. Voilà ce qu'a dit mot pour mot la veuve de l'ancien président burkinabé. Vous l'avez certainement entendu sur notre antenne. Thomas Sankara a assassiné, rappelons-le, lors d'un coup d'État en 1987 qui a permis à Blaise Compaoré de prendre le pouvoir. Thomas Sankara était un président charismatique qui voulait changer le monde. Certains disaient qu'il était peut-être un peu trop utopique. En tout cas, il était panafricaniste, anti-impérialiste. Alors, 27 ans après sa mort, le mythe Sankara est-il toujours vivant? Que reste-t-il finalement de son esprit révolutionnaire? Et dites-nous si la chute du régime Compaoré va permettre de connaître enfin la vérité sur la mort de l'ancien président. Vous nous rejoignez, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Évidemment, si vous êtes en France, vous composez le 09 693 693 70. Vous continuez à poster vos réactions, vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Quelques 800 messages, j'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. C'est ce rendez-vous privilégié que vous avez tous les jours avec mes confrères, nos spécialistes ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. RFI répond à toutes vos questions pour vous permettre de mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Et on parle beaucoup de réformes constitutionnelles au Burkina Faso. Eh bien, il n'y a pas qu'au Burkina qu'on parle de réformer ou qu'on envisage de réformer la constitution. Omar, bonjour.
Bonjour Juan,
vous êtes
bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Dakar au Sénégal et vous avez une question concernant la Birmanie.
Oui, effectivement, Juan. J'ai appris sur les ondes d'RFI que la Birmanie envisageait de modifier la constitution pour permettre à Aung San Suu Kyi de se présenter aux élections présidentielles prochaines.
Mm-hmm.
Et par rapport à ce sujet, j'ai deux questions. Pourquoi le Parlement birman accepte de modifier la constitution pour Aung San Suu Kyi?
Mm-hmm.
Et les États-Unis qui soutiennent ce projet, Juan, j'aimerais savoir quelle forme prend le soutien.
Alors, Aung San Suu Kyi sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle de l'année prochaine? En tout cas, rien n'est encore gagné pour le prix Nobel de la paix. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour. Bonjour Romain.
Journaliste au service international d'RFI. Ce qu'il faut dire tout de suite, d'ores et déjà, Stéphane, c'est que la constitution telle qu'elle existe aujourd'hui en Birmanie a été, on peut le dire, taillée sur mesure pour barrer la route à Aung San Suu Kyi.
Oui, c'est pour ça que la question d'Omar est très intéressante, c'est qu'effectivement, on ne sait pas pour l'instant, Omar, hein, si cette réforme constitutionnelle, il y en aura une, mais où elle ira? Parce que l'opposition birmane, hein, pour défendre Aung San Suu Kyi, qui veut effectivement candidater à la présidence, pour l'instant, elle ne peut pas, Aung San Suu Kyi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux gros points noirs, hein, faut bien voir ça, deux gros points noirs dans cette constitution de 2008, qui a effectivement été bricolée, on va dire, hein, par les généraux, par les militaires, pour se faire une transition démocratique sur mesure. Deux gros points noirs. Le premier, c'est que, tout simplement, une personne qui a des enfants étrangers ou qui est mariée avec un concubin étranger, comme c'est le cas de Aung San Suu Kyi, puisqu'elle est veuve d'un Britannique, elle a deux enfants britanniques, et ben cette personne ne peut pas se présenter à la présidence. Donc pour l'instant, Aung San Suu Kyi, dans l'état actuel, ne pourrait pas être candidate. Et puis deuxième gros point noir, il est quand même énorme, c'est que les militaires, la junte, se réservent 25%, hein, dans l'état actuel, 25% des sièges dans cette assemblée. Donc on imagine mal pour l'instant ces militaires vouloir lâcher du lest et lâcher cette chose qui est très importante. Ça permet quand même d'avoir le pouvoir, hein, d'avoir 25% des sièges.
Mais pourquoi l'homme fort du pays accepterait maintenant de modifier la constitution à un an du scrutin présidentiel?
Parce qu'il y a une grosse pression. D'abord, il y a eu ces manifestants de l'opposition dans la rue. Il y a des pétitions partout en Birmanie. Puis surtout, depuis 2010, on a vu d'abord la libération de sa résidence surveillée d'Aung San Suu Kyi. Puis il y a également, depuis 2012, ces pressions des États-Unis. Et ils ont levé... On est dans un processus quand même démocratique. Donc ils ont levé leurs sanctions, les États-Unis. On ne sait pas encore où on en est, puisqu'il y a encore le 5 novembre dernier, je crois, qu'Aung San Suu Kyi faisait une conférence de presse en disant disant on est au point mort, pour l'instant ça n'avance pas. Pourquoi ? Parce qu'on attend Obama, on attend la visite d'Obama en Birmanie, donc elle refait
mercredi. Attendu mercredi.
Donc vous avez raison, Omar, il y a des pressions, en tout cas des États-Unis qui soutiennent pour l'instant ce processus démocratique. Alors il y a plusieurs choses, on a fait des prêts à la Birmanie, on a levé des sanctions pour que les entreprises occidentales et notamment américaines puissent travailler avec la Birmanie, qui a été longtemps un État paria, mais aujourd'hui l'opposition birmane demande des gages de bonne volonté. On ne veut pas simplement qu'on promette des choses, on veut justement ces deux points noirs dont je parlais, eh bien qu'on les supprime, que Aung San Suu Kyi puisse se présenter. Juliette Gerbrand, qui suit ce dossier, Odescasi de RFI, me disait par exemple qu'il y a encore très récemment, je crois que c'était le 31 octobre dernier, les États-Unis ont placé sur liste noire un élu, ça c'est une autre forme de pression, un élu birman. On fait à peu près ce qu'on fait avec la Russie pour l'Ukraine, on cible les personnalités, donc un élu birman accusé de saper le processus démocratique a été placé sur liste noire des États-Unis. Donc on attend de voir, on va voir, ça va être très important, on va suivre ça dans les mois prochains sur RFI, parce que il va y avoir une annonce de date au mois d'août, ces élections sont prévues pour novembre, on va voir ce qui va se passer, on va voir si ces deux points noirs sautent, et on va voir si on va avoir un vrai processus démocratique.
Et on verra déjà ce que dira Barack Obama, Aung San Suu Kyi, puisqu'ils doivent se rencontrer, je crois, vendredi ou samedi prochain.
Et on va suivre ça avec nos correspondants aussi.
Merci beaucoup Stéphane Lagarde. Omar, on vous souhaite une bonne journée à Dakar, merci de nous écouter sur les 92 FM dans la capitale sénégalaise où il est 8h16, 33 9 693 693. 70. Vladimir nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, et vous avez des questions concernant le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Oui, effectivement, Monsieur Juan. Ma question concerne le Royaume-Uni et l'Union européenne. David Cameron, le Premier ministre du Royaume-Uni, s'opposait au paiement de sa rallonge budgétaire imposée par l'Union européenne jusqu'à ce qu'un accord trouvé vendredi dernier. Et à ce propos, je voudrais savoir pourquoi le Royaume-Uni est confronté à une augmentation budgétaire à hauteur de 2 milliards d'euros supplémentaires exigés par l'Union européenne.
Alors, bonne question, effectivement. On va essayer de comprendre pourquoi le Royaume-Uni doit désormais payer 2 milliards d'euros supplémentaires au titre du budget de l'Union européenne. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour, 2 milliards 100 millions.
Oui, vous êtes précis. J'étais sûr que vous alliez me reprendre, mais effectivement, vous avez bien raison. 2 milliards 100 millions, 100 millions d'euros. Enfin, David Cameron, il est peut-être à 100 millions près, le contribuable britannique aussi. Il faut quand même rappeler, Guillaume, que chaque pays membre de l'Union européenne contribue au budget européen, budget qui s'élève, je crois, à quelques 135 milliards
annuellement,
d'euros
absolument,
par
c'est
an.
Ça. C'est un budget qui est calculé en fait sur une base pluriannuelle. La prochaine échéance, là, c'est cette année, 2014 jusqu'à 2020, et c'est 900 milliards d'euros. Donc voilà, ça fait en moyenne à peu près 130, 135 milliards d'euros par an. Et effectivement, David Cameron, l'autre jour, il y a une quinzaine de jours, au moment du Conseil européen, était foudrage. Mais vraiment foudrage, parce que on lui a annoncé, dit-il, une augmentation, une réévaluation de la contribution britannique de 2,1 milliards d'euros. Alors ça a pu être possible ? Eh bien, en fait, en 2010, les membres du Conseil européen se sont mis d'accord pour réviser les règles qui fixent les contributions de chacun des États membres à l'Union européenne. Ces règles donc ont été modifiées et il y a des ajustements maintenant en fonction de la performance économique, de la santé économique des pays qui sont membres de l'Union européenne.
Donc, en fonction de la richesse du pays, finalement.
En fonction de la richesse du pays et de sa population. Et les règles de calcul de la richesse sont un petit peu évoluées. Vous savez notamment que maintenant, la prostitution et l'argent de la drogue sont intégrés au produit intérieur brut, au PIB. Et c'est pas encore le cas dans tous les pays, mais c'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni. Et ça a induit une augmentation de 0,5 points de PIB pour le Royaume-Uni. Et comme la performance économique est David Cameron est le premier à s'en féliciter depuis des années du Royaume-Uni est excellente. Ils ont une croissance sur une base annuelle de 3,5% en ce moment, les Britanniques. Eh bien, la contribution qui a été négociée en 2010 fait que... Enfin, les règles ont été négociées en 2010 fait que, on arrive sur cette addition de 2 milliards 100 millions d'euros. C'est une contribution qui est recalculée depuis 1995. C'est un petit peu compliqué. On va pas rentrer dans les détails.
Technique, ouais.
C'est depuis 10 ans, en fait, le Royaume-Uni doit 2,1 milliards d'euros. C'est pour ça que David Cameron, on lui a demandé de payer ça. L'échéance était le 1er septembre de cette année. Il est arrivé au Conseil européen en disant qu'il n'était pas question, dans des accents qui rappelaient un peu Margaret Thatcher, qu'il n'était pas question qu'il paye cette facture d'ici au 1er septembre. Et c'est ce qui s'est passé.
Ouais, il faut dire quand même que tous les pays membres ont vu leur contribution modifiée. Alors certains à leur avantage.
La France a perdu 1 milliard d'euros et 1 milliard d'euros en moins à payer, absolument. Et les Pays-Bas, 780 millions d'euros en moins à payer.
Ouais, enfin, voilà. Et l'Allemagne aussi, l'Allemagne également. Aussi. Vladimir, vous aviez une autre question.
Oui, Juan, je voudrais ensuite savoir quels arguments motivaient ce refus de payer de la part de David Cameron et quel est le contenu de l'accord trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni lors de la réunion des ministres des Finances de l'UE.
Vendredi, effectivement, vendredi, il y a eu un accord, un compromis trouvé. D'abord, pourquoi Cameron refusait de payer si c'est écrit dans les textes?
Première chose, c'est vrai que 2 milliards 100 millions d'euros d'un coup au 1er septembre, même pour un pays riche.
1er décembre.
Au 1er septembre.
Ah, c'était septembre.
C'était le 1er décembre. Vous avez raison.
Décembre, ouais. On est en novembre.
Vous comprenez maintenant. Vous avez raison. C'est quand même pour un pays riche comme le Royaume-Uni, c'est quand même un chèque à signer, hein. Il faut quand même se rendre compte que 2 milliards et un peu plus d'euros, c'est beaucoup. Donc, il était un peu virulent là-dessus, David Cameron. Et puis surtout, il y a des raisons de politique intérieure. Vous savez qu'il est soumis à une pression eurosceptique dans son propre parti et avec le parti de Nigel Farage, le UKIP, qui prône la sortie de l'Union européenne, à une pression eurosceptique importante. Et David Cameron a promis un référendum sur la question d'ici à 2017. Son argument, c'est on a intérêt à rester dans l'Union européenne, mais je vais négocier de meilleures conditions pour le Royaume-Uni. Et donc, son idée, c'était de montrer qu'il était un peu virulent sur cette question d'ici à ce référendum. Mais il est un petit peu piégé, en fait, sur le plan intérieur, David Cameron, parce qu'il est obligé d'en rajouter. Ses partenaires dans l'Union européenne commencent à être un petit peu fatigués, quand même, du fait que David Cameron soit un peu virulent sur ces questions-là et arrive, par exemple, à tous les conseils européens avec son propre agenda en disant « je ne veux pas payer pratiquement une fois sur deux », alors que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, ça commence à être un petit peu fatigant. Alors, l'accord qui a été trouvé, c'est que de 2,1 milliards d'euros, si on prend en compte le rabais britannique, le fameux I want my money back de Margaret Thatcher en 1984 à Fontainebleau, eh bien, en fonction d'ailleurs justement de l'augmentation du PIB britannique, ce rabais augmente lui aussi mécaniquement, donc 2,1 milliards moins le rabais, ça fait 1,08 milliards et les Britanniques, avec ce coup de gueule, il faut l'appeler comme ça, ont obtenu que ce rabais soit payé, soit repoussé, enfin, cette contribution exceptionnelle soit repoussée au 1er septembre, là c'est bien le 1er septembre de l'année prochaine, avec deux tranches de, pour payer, une au 1er juillet, une au 1er septembre, avantage non négligeable. On peut annoncer que ça fait 1,08 milliard et non plus 2 milliards, alors que bon, c'était prévu de toute façon que le rabais soit retiré aux Britanniques. Et surtout, deuxième avantage, ça viendra après les élections législatives qui tiendront au mois de mai au Grande-Bretagne.
Effectivement. Et bien voilà, c'est la fin du psychodrame, enfin.
Jusqu'au prochain. De cet épisode-là, oui.
Merci Guillaume Nodin d'être venu répondre à Vladimir qui nous appelait de Yaoundé au Cameroun, 33 9 693 693 70. Abla Jounaïdi du service international nous a rejoint. Bonjour Abla.
Bonjour.
Des questions concernant les États-Unis après la défaite des démocrates lors des élections de la semaine dernière, les élections de mi-mandat. Bonjour Souleymane.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Zabré. Zabré, c'est au Burkina Faso, dans le centre-est du pays, pour être précis. On vous écoute. Quelle est votre question?
Bon, moi j'ai deux questions à poser sur la cohabitation entre démocrates et républicains après l'élection de mi-mandat aux États-Unis. Comment va fonctionner cette cohabitation et quel impact aura-t-elle sur la fin du mandat du président Obama?
Alors, Abla Jounaïdi, Obama est contraint de cohabiter pendant deux ans avec les Républicains, voilà. Les deux dernières années de son mandat. Ça s'annonce compliqué, difficile pour le président.
De l'avis de tous les analystes et commentateurs, ça va être compliqué. Mais comme a été compliqué, finalement, toute dernière partie de mandat de tous les présidents depuis Ronald Reagan, tous ont dû composer les deux dernières années avec un congrès qui n'était pas de leur bord. Donc ça va être difficile pour Obama de faire passer les réformes, notamment la réforme qui lui tient à cœur, c'est cette réforme sur l'immigration. Hein. Les républicains en ont fait vraiment leur cheval de bataille, l'opposition à cette loi qui prévoit la régularisation de plusieurs millions de sans-papiers qui sont présents aux États-Unis. Donc comment va fonctionner la cohabitation? On va le voir, hein. On peut pas deviner, mais ça va dépendre de la qualité du dialogue. Juste après l'élection, on a entendu aussi bien Obama que le camp républicain, notamment l'homme fort du Sénat maintenant, Mitch McConnell, dire on va négocier, on va discuter de toutes les lois qui sont notamment cette loi de l'immigration, on va essayer de s'entendre. Donc tout va dépendre si on va entrer dans une phase où les deux camps vont discuter ou chacun va camper sur ses positions, sachant que ce qui est à craindre le plus, c'est que Obama, qui tient vraiment à cette réforme sur l'immigration, passe par des décrets présidentiels, c'est-à-dire passe un peu en force en imposant cette loi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Obama a deux armes, c'est-à-dire celle des décrets présidentiels qui font finalement office de loi, si j'ai bien compris, la législation américaine, ou presque.
Alors non, le fait est que s'il passe par décret, c'est un décret, c'est pas une loi, et donc elle peut être décousue. Ces décrets-là peuvent être décousus dans deux ans, donc au moment où on change de...
D'accord.
Au moment des nouvelles élections.
Donc il y a les décrets.
Voilà, il y a les décrets. Et puis, si les républicains veulent remettre en cause donc soit cette loi sur l'immigration qui tient à cœur à Obama, soit l'Obamacare, donc le programme d'assurance maladie, Obama peut déposer son droit de veto pour bloquer les initiatives républicaines pour mettre à mal ces réformes. Voilà. Donc, on va voir quelle sera la qualité du dialogue, s'il y a un dialogue entre les deux camps durant les deux années à venir.
Autre question avec nos standards. Jean, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes en région parisienne, on vous écoute.
J'avais aussi une question à deux volets, bien évidemment, concernant les élections demi-mandat aux États-Unis. La première question, c'est de savoir s'il y a un risque que la majorité républicaine abroge la loi Obamacare. Et la deuxième, je voulais savoir quels avantages cette victoire des républicains représente pour les élections futures de 2016.
Ouais, c'est vrai que l'ombre de la présidentielle prochaine est déjà dans tous les esprits. Oui. Un mot d'abord, effectivement, Obamacare, on sait que les républicains n'en voulaient pas. Maintenant qu'ils sont majoritaires dans les deux chambres, est-ce qu'ils vont abroger cette réforme?
Alors non, ça va pas se passer comme ça, parce que ça ne se passe tout simplement pas comme ça. Si les républicains remettent en cause tout Obamacare, à l'issue de ce processus, le président américain doit ratifier, doit dire « Ok, d'accord, on annule Obamacare », sauf que ça n'arrivera jamais.
Et lui-même a dit, il est hors de question, ne comptez pas sur moi, je ne signerai jamais une loi annulant cette réforme de la protection sociale.
C'est la loi phare d'Obama. Il lui reste deux années au pouvoir. Pour son héritage, si vous voulez, il faut que cette loi reste en place. Par contre, il y a certains volets, effectivement, économiques sur le financement de cette réforme Obamacare qui a été vilipendée par les républicains parce qu'elle coûte très cher. Certains volets peuvent être remis en cause et c'est ce à quoi vont s'atteler les républicains, en particulier Ted Cruz du Tea Party, donc c'est l'aile vraiment ultra l'aile conservatrice des républicains, qui va remettre en cause ces volets-là qui coûtent cher aux Américains.
Mais là, Obama peut user de son droit de veto ou pas?
Il peut user de son droit de veto, bien sûr.
D'accord. Donc la bataille sera
rude, certainement. Mais il est à douter que Obamacare soit au centre, puisque les républicains n'ont pas qu'Obamacare en tête. Ils n'ont pas intérêt, effectivement, à avoir qu'Obamacare en tête. Ils ont pas mal de réformes qu'ils veulent faire passer, notamment économiques, sur donc réformes fiscales, réformes...
Pour aider les entreprises.
Voilà. Donc ça, c'est je pense qu'ils ont politiquement plus à gagner à insister sur ces volets-là.
Abla, il nous reste 45 secondes pour répondre à la question de Jean. La défaite des démocrates, est-ce que c'est un signe révélateur de la défaite des démocrates en 2016 ou pas?
Alors là, c'est encore difficile à dire. Les républicains ont misé sur le rejet d'Obama. Ils ont fait de ces élections, on l'a dit beaucoup, d'un référendum anti-Obama. Ils peuvent continuer à surfer sur cette vague-là. Beaucoup de têtes ont émergé à l'occasion de ces élections, de cette campagne. On va surveiller ça de près.
En tout cas, il est est très rare qu'un même parti enchaîne trois mandats successifs à la Maison-Blanche.
C'est dit.
C'est dit, voilà. Et la dernière exception en 60 ans, c'était en 88, George Bush, élu à l'issue de deux mandats de Ronald Reagan. On suivra ça, tout ça, évidemment. Merci à Blaise Jonaïdi.
Merci à vous.
Bonne journée, restez avec nous dans un instant. Le journal, le point complet sur l'actualité. Et tout de suite après, notre débat du jour, vos réactions, le Burkina Faso et surtout l'héritage de Thomas Sankara. 27 ans après sa mort et 27 ans finalement après de règne, le règne de Campore. Que reste-t-il du mythe Sankara? Reste avec nous.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent.